Bonjour à toutes et à toutes. Au micro, Paul Ouzi-Meyerson, qui vous présente Chronique pour la paix, une émission émise en temps de guerre et de terreur. Chers auditeurs, ce matin, je me suis levé inquiet et la gorge nouée. Je devais rejoindre les studios de Radio Shalom pour tenir ma chronique sur la paix. Mais comment parler de paix ? Depuis 10 jours, le chaos règne au Moyen-Orient. Israël a été attaqué par les terroristes du Hamas qui ont massacré femmes, enfants, vieillards, en tout 1200 civils tués dans d'atroces conditions. Toutes les villes et les kibboutzim du sud, qui jouxtent la bande de Gaza, ont été livrées sans défense à la haine anti-juive des assassins djihadistes qui ont pris 199 personnes en otage, parmi eux des enfants, de très petits enfants. « Où est Tsahal ? Où est Tsahal ?» imploraient par téléphone les habitants de Sderot, de Berry, de Nir Oz, de Zikim. « Où est Tsahal ?» imploraient les jeunes gens participant à la RAF partie de Reim. « Où sont les renforts ?» imploraient les soldats abandonnés de la position de Soufa. Et pendant 12 heures au moins, le massacre a continué, pendant qu'Israël se trouvait une nouvelle fois sous le feu des missiles tirés par les milices djihadistes de Gaza. Sur le terrain, pendant ces très longs moments d'angoisse et de mort, des actes de résistance et d'héroïsme juif, il y en a eu plein. Finalement, aujourd'hui, Tsahal est là et l'organisation Zaka recueille les corps des martyrs. Quant au Hamas, la traque est commencée. Les bombardements aériens sur Gaza sont incessants, précis et terrifiants. Les commandos israéliens ont commencé à pénétrer dans la bande de terre. Les corps blindés se massent à sa frontière. La population arabe panique à l'annonce de l'assaut israélien. Elle se rue en masse vers des horizons incertains du côté égyptien. Et au nord d'Israël aussi, en Galilée, la tension monte face au Hezbollah qui menace. Un ennemi impitoyable, chien de guerre tenu en laisse par l'Iran qui mène la danse. Les échanges de feu s'intensifient, il y a les premières victimes et les villages sont évacués. Chers auditeurs, tout cela vous le connaissez, mais moi aujourd'hui je pose la question. Face au massacre terroriste contre les Juifs, et aux menaces d'agression sur plusieurs fronts contre Israël, comment parler de la paix ? L'envisager même ? Cette question extrêmement difficile, diabolique pourrait-on dire, je vais la poser à David Shemla. David Shemla est le secrétaire général de J-Call, une des associations avec la paix maintenant qui sponsorise notre émission. Bonjour David Shemla. Bonjour. Et bienvenue sur notre antenne. Alors David, d'abord pour que les auditeurs comprennent bien, je voudrais qu'en quelques mots, c'est un peu la règle, vous expliquiez ce qu'est J-Call pour ceux qui ne le savent pas.
J-Call est un mouvement européen qu'on a lancé en 2010 au Parlement européen pour simplement dire qu'il y avait une urgence à trouver une solution sur la base de deux États pour éviter des situations comme celles dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui.
D'accord, et aujourd'hui vous êtes une association active avec pas mal de personnes qui vous suivent.
Oui, on a beaucoup de sympathisants, d'adhérents en France, Belgique, Italie, etc.
Alors David Shemla, d'abord j'ai une petite question personnelle à vous poser avant de vous poser les autres. Je sais que vous avez participé à la guerre de Kippour, vous avez combattu dans le Sinaï, et je voudrais savoir si vous ressentez la même ambiance aujourd'hui que celle qu'il y avait en Israël au moment de la catastrophe de Kippour.
Au niveau de ce que je peux voir dans les médias israéliens, il y a 50 ans, on n'avait pas les médias d'aujourd'hui et pas les réseaux sociaux. Il y a cette mobilisation d'unité nationale derrière l'armée, c'est évident. Mais je peux déjà noter deux différences, je pense. La première, c'est qu'en 1973, j'ai été mobilisé le 6 octobre et je me suis trouvé derrière les unités de Sharon de l'autre côté du canal de Suez pour nous battre du côté de Ismaïlia. À cette époque-là, les soldats ont tenu, les lignes au prix de beaucoup de morts et aucun village, aucun kibbutz, aucune ville israélienne, aucun civil n'a été tué.
C'est la grande différence.
Aujourd'hui, on se trouve malheureusement les kibbutzim qui se trouvent le long de la frontière où vivaient, rappelons-le, où vivent aujourd'hui encore une population plutôt proche des idées que nous défendons. Parmi les otages se trouvent des militants de la paix bien connus en ce moment. Ont été les premiers en ligne, comme en 1948, pour faire face à l'ennemi. Donc ça, c'est ces gens qu'on a accusés depuis des mois et des mois par le gouvernement en présence, dirigé par Netanyahou, d'être des traîtres et des anarchistes. Ce sont les premiers qui ont combattu. C'est la première différence. La deuxième différence, c'est qu'à l'époque, on n'avait aucune perspective de paix avec les États arabes. On avait l'impression d'être dans une situation de tragédie grecque où tous les quelques années, il y allait avoir un conflit militaire. Aujourd'hui, 50 ans après, Israël a signé des accords de paix avec les plus grands États de la région, Égypte, Jordanie. Avec la Syrie, il y a une espèce, de, non pas de paix, mais il y a une espèce de cessez-le-feu là, qui fonctionne. De temps en temps, Israël bombarde quand elle veut des positions en Syrie, notamment les positions iraniennes en Syrie. Mais il n'y a plus ce qu'il y avait il y a 50 ans, un risque, je dirais, de disparition de l'État par rapport à des attaques de pays puissants. Aujourd'hui, c'est un conflit face à des dizaines de milliers de terroristes qui ont été embrigadés par le Hamas et dont on connaissait l'existence. Et là, c'est la grande faillite que je ne comprends pas. Il y a 50 ans, on s'est fait avoir, parce qu'on a fait des erreurs stratégiques pour estimer la situation militaire. J'ai été surpris aujourd'hui par la surprise des Israéliens. Je ne m'attendais pas que 50 ans après, de nouveau, on puisse être surpris de cette façon par une erreur stratégique. Une erreur d'abord de la conception de la défense que les Israéliens ont mis en place depuis des années, à savoir le Hamas, ce n'est pas une menace, c'est une menace que l'on contrôle. On laisse passer des valises de dollars envoyées par le Qatar pour que le Hamas paye ses activités. Et en espérant avoir une espèce de paix économique de cette façon-là, tous les quelques temps, ils envoient des missiles, on répond et puis on repart pour quelques années de tranquillité. Et puis par ailleurs, on ne fait rien vis-à-vis de l'autorité palestinienne que l'on laisse un petit peu dépérir et on ne leur propose aucun avenir politique. Cette erreur stratégique, on la paye très cher parce que cette valise de dollars ont servi à armer le Hamas, le préparer et on n'a rien vu. On pensait que des barrières électroniques suffiraient à les arrêter et que des caméras suffiraient à observer ce qui se passe de l'autre côté. Il a suffi de cacher ces caméras, c'est ce qu'a fait le Hamas le premier jour. Les jeunes qui étaient derrière leurs écrans n'ont rien vu. Ils sont venus avec des bulldozers et la barrière pour laquelle on a construit des fondations de plusieurs mètres avec du béton pour empêcher les tunnels de passer sous cette barrière n'a servi à rien. Il suffisait de venir avec un bulldozer et de bousculer la barrière et la casser. Il y a aujourd'hui 80 trous dans cette barrière par lesquels sont passés des milliers de terroristes les premières heures du fameux samedi noir du 7 octobre. Voilà les deux grandes différences. Mais le peuple est là, l'armée est forte, et je n'ai pas le moindre doute que Israël vaincra. Mais le problème, c'est quoi après ? Vers où va-t-on ? Et comment faire pour que cela ne se reproduise plus ?
Alors, David Chemla, vous vous investissez beaucoup avec vos amis, et depuis très longtemps, dans le dialogue israélo-palestinien, dans le rapprochement entre juifs et musulmans, et surtout dans la solution « deux peuples pour deux États ». Est-ce que vous considérez que les massacres du Hamas perpétrés contre la population civile juive remettent en cause les solutions pour la paix que vous préconisez ?
Vous savez, il y a deux choses qui ne changent pas. C'est la géographie et la démographie. 6-7 millions de Palestiniens dans la région, entre la Cisjordanie et Gaza, resteront là demain, après-demain, quelle que soit les solutions dans le cas où. Et puis la géographie non plus, la proximité dans ce territoire très réduit de ces populations ne changera pas. Alors il n'y a pas 36 possibilités. Soit on trouve un accord et on met vraiment toutes les mesures pour permettre et garantir une sécurité totale à la population israélienne et favoriser un développement économique des territoires et avec une autonomie palestinienne indépendante, soit on continue une situation comme celle-ci d'occupation qui donne aucune perspective aux Palestiniens et qui les pousse dans les mains des extrémistes. Il n'y a pas d'autre alternative. Même, je dirais, dans notre camp, entre guillemets, les camps des gens qui cherchent depuis longtemps une solution au conflit, devant le désespoir de ne pas voir la possibilité d'émerger une solution en deux États parce qu'il n'y avait plus de négociations depuis des années, pour la faute des deux côtés, hein, bon, on ne va pas rentrer sur tous les événements des 10 dernières années, beaucoup de gens commençaient à penser à la formation d'un seul État. Un seul État binational, avec des répartitions, des ministères communs, une espèce de fédération dans laquelle vivrait une petite autonomie palestinienne dans le cadre d'un grand État. Je crois qu'aujourd'hui, même cette solution-là, même ces gens-là qui y croyaient ne peuvent plus l'imaginer après ce qui s'est passé. Je crois, comme le disait Amos Oz à l'époque, dans un petit livre, il faut les aider à divorcer, se séparer, mettre une frontière, et après on verra comment on peut établir des relations de voisin à voisin.
D'accord. Alors, David Chemla, une paix négociée entre Israéliens et Palestiniens, mais est-ce que vous pensez que cette paix négociée entre les uns et les autres passe par la destruction du Hamas? Parce que cette milice est considérée comme une organisation terroriste, djihadiste, et que son programme est la destruction de l'État d'Israël et l'islamisation de la terre d'Israël. Ce n'est pas un mouvement nationaliste. D'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc dans sa charte. Est-ce que vous pensez que Tsahal doit détruire le Hamas et que ça sera une étape vers la paix?
On ne parle pas de paix pour l'instant. Alors, il faut déjà, aujourd'hui, que Israël regagne la force de dissuasion qu'elle a perdue ces jours-ci et qu'elle montre à tous ses voisins qu'ils ne se feront plus avoir de cette façon-là. C'est important de récupérer ce pouvoir de dissuasion. Ensuite, trouver l'urgence, c'est les otages. Récupérer les otages au prix, à n'importe quel prix. Il y a près de 200 personnes qui sont disparues. On ne sait pas s'ils sont otages, s'ils ne sont pas morts. Parce que n'oublions pas que parmi les morts, il y a 1400 morts recensés plus ou moins jusqu'à aujourd'hui, il y a encore 400 corps qu'on ne sait pas identifier en Israël, de civils et soldats aussi, vu l'état dans lequel ils se trouvent. Donc les gens, familles sont aujourd'hui imaginées, ne peuvent pas savoir si leur proche est fait partie des 400 corps victimes ou bien se trouvent de l'autre côté de la frontière. Donc la première urgence, c'est de récupérer les otages. Pour cela, je pense qu'une grande implication internationale sera nécessaire. Ensuite, Israël mènera et doit mener des opérations militaires contre le Hamas. Mais c'est un piège aussi que le Hamas a préparé. Il faut le savoir, on dit qu'il y a près de 500 km ou même plus de souterrains sous Gaza. Il y a une ville souterraine avec des tunnels où il y a des pièges qui attendent les soldats qui vont y rentrer. Prendre ces tunnels, ça va coûter la vie de dizaines, voire peut-être plus des soldats israéliens. L'armée le sait, c'est pour ça que les plans qui sont en cours d'études, je suppose, sont en train de voir toutes les possibilités pour comment intervenir. Mais je suis convaincu qu'ils le feront. Il faut, de toute façon, pour l'après, ça ne peut être un après que sans le Hamas, pour ce qui concerne Gaza. Il faudra réfléchir à toutes sortes de solutions avec une très forte implication internationale pour y mettre un pouvoir autre que celui du Hamas. Pourquoi pas mettre Gaza sous protectorat avec des instances internationales onusiennes qui le contrôleraient pendant un certain temps en attendant une solution politique qui devrait être négociée avec l'autorité palestinienne. Pourquoi pas? Je crois que...
Donc pour vous aujourd'hui, pour vous le véritable représentant du peuple palestinien, de la population palestinienne, c'est l'autorité palestinienne, par le Hamas.
Vous savez, ce n'est pas nous qui décidons qui représente qui. Les sondages, si tant est qu'on peut en faire ou on a et y donner du crédit, montrent que le Hamas reste très populaire. Et c'est évident qu'au sein de peut-être plus la jeunesse, je ne sais pas, devant le blocage politique dans lequel se trouve la situation, la société palestinienne depuis des années, l'acte du Hamas donne un pouvoir d'identification et que beaucoup de gens se reconnaissent. Mais s'il existe, on sait bien que c'est ce n'est pas une position qui offre une perspective politique de solution, parce que, comme vous le dites, leur projet n'est pas que politique et national, il est aussi de rééducation de l'État d'Israël et de refus de son existence, comme c'est dans sa charte, même si on prétend que sa charte a été amendée en 2017, mais pour l'instant, les actes prouvent que ce n'est pas le cas. Quand les militants du Hamas sont passés, les terroristes sont passés, ils avaient des petits livrets que l'on montre maintenant à la télévision israélienne. On voit que dans ces livrets, il était indiqué comment tuer les Juifs. C'était ça leur objectif. Donc, c'est pas avec le Hamas qu'on peut négocier. Il faudra qu'il y ait des changements, imposés ou pas, je ne sais pas. Mais s'il y a une perspective politique, on peut espérer qu'il y aura un autre avenir à offrir à cette population palestinienne. De toute façon, il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Soit on engage tous les efforts avec toutes les aides nécessaires internationales, les supports économiques, l'argent arabe, l'implication onusienne, etc., pour trouver une solution politique. Et ça, en Israël, ça sera difficile à faire accepter par la droite israélienne. Soit on continue d'aller de conflit en conflit, avec de surprise en surprise, et celle du 7 octobre restera une tache dans l'histoire d'Israël.
Alors, il nous reste peu de temps, David Gemla. Une dernière question. Votre mouvement JCOL a soutenu la lutte pour les démocrates, la lutte des démocrates israéliens contre la réforme de la justice, qui est en fait un changement de régime, où vous êtes très impliqué en soutenant le mouvement citoyen israélien. Comme vous l'avez expliqué, il y a eu des erreurs stratégiques incompréhensibles qui ont conduit au massacre, en fait. Hein. Ça a permis le massacre, parce que ça n'aurait pas dû s'écrouler comme ça, la barrière de sécurité. Est-ce que vous croyez qu'il faut maintenant demander des comptes au gouvernement, ou est-ce qu'il faut attendre la fin de la guerre, l'écroulement du Hamas à Gaza? Est-ce que vous pensez qu'il faut...
Vous savez, il y a eu des précédents.
La même chose pour les otages, d'ailleurs.
Non, les otages, c'est une urgence. Avant toute autre négociation, je crois que la question des otages, c'est évident, c'est une urgence. Mais la commission, il y aura des commissions d'enquête. Il y en a eu après la guerre de Kippour, commission à Granate. Il y en a eu après la guerre du Liban, en 2006. Il y aura des commissions, des responsabilités doivent être montrées. Déjà, aujourd'hui, le responsable du Shin Bet a pris sur lui la responsabilité d'avoir mal estimé les risques. Déjà, le chef d'état-major, Rezé Halevi, a pris la responsabilité d'avoir mal préparé l'armée aux événements qu'ils l'ont énoncé. L'échelon politique, jusqu'à aujourd'hui, n'a rien dit. Je crois que la population israélienne est en droit et aura droit à avoir suite à ce conflit, les réponses aux questions que tout le monde se pose. Et on verra après... La question de la réforme juridique n'est plus d'actualité aujourd'hui, et je pense, j'espère qu'elle va être mise au rencard pour longtemps.
Eh bien, merci d'avoir participé à notre émission, David Gemla, et d'avoir répondu à nos questions. C'était pas facile. Hein, et à bientôt sur Radio Shalom. Alors, chers auditeurs, je vous souhaite bon courage à tous et que des jours meilleurs nous reviennent. C'est Paul Ouzimierson à l'antenne avec Chronique pour la paix.